France Inter, il est 13h. Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus au sommaire aujourd'hui. Une réforme importante pour les victimes de violences sexuelles. Elles peuvent désormais porter plainte chez elles, chez un proche ou un avocat, plutôt qu'au commissariat. Entrée en vigueur dans quelques départements aujourd'hui. Pour qui la troisième dose de vaccin ? Conseil de défense sanitaire demain. La question de l'élargissement sera examinée, confirme le ministre de la Santé. Le conseil scientifique plaide pour tous les adultes. La santé encore et l'épidémie de bronchiolite virulente. Cette année, on en parle avec la présidente de la Société des pédiatres. Les Restos du Cœur lancent leur 37e campagne. 1 200 000 personnes aidées l'an dernier et de plus en plus de jeunes.
Aujourd'hui, une personne sur deux au Restos du Cœur a moins de 25 ans. 40% des personnes que nous accueillons sont mineures.
Et beaucoup de bénéficiaires isolés, les restos développent leur centre mobile. Dans l'actualité encore, c'est près de 10 milliards d'euros par an pour la France, la nouvelle politique agricole commune au vote du Parlement européen. La peur que la guerre se réveille en Bosnie, nous irons en reportage, en Méditerranée, à la recherche en pleine mer d'un avion britannique échoué et de ses secrets de fabrication. Des propositions dans les 15 jours contre la violence dans les stades. Hier encore, bagarre générale en marge de Dijon-Auxerre dans un bar. Franck Camas et Charles Caudrelier attendus en vainqueur de la Transat, Jacques Vabre. Vos rendez-vous dans le 13-14. À 13h30, notre invité est le président de la Fédération Nationale des Chasseurs. Toutes vos questions, 01 45 24 7000 et l'appli France Inter. Jean Lebrun, le vif de l'histoire, les femmes du Panthéon avant l'entrée de Joséphine Baker, aujourd'hui Marie Curie. Et puis dans C'est une chanson, la styliste Agnès B nous fait écouter du Léo Ferré.
France Inter. Le 13-14.
159 000 victimes de violences conjugales l'année dernière en France, à 87% des femmes. Comment mieux repérer les victimes de violences sexuelles plus largement et mieux les prendre en charge? Depuis plus de 4 ans maintenant et l'émergence du mouvement MeToo, la question du dépôt de plainte est régulièrement posée. L'accueil pas toujours dans les bonnes conditions au commissariat, même si des progrès ont été faits. Une nouveauté se met officiellement en place aujourd'hui en France, la possibilité de déposer plainte en dehors du commissariat et de la gendarmerie. Cette réforme avait été annoncée en octobre, elle entre en vigueur dans quelques départements pour l'instant, Margot Steve.
L'idée de cette expérimentation, c'est d'offrir aux victimes une autre solution que le cadre froid et l'agitation d'un commissariat ou d'une gendarmerie pour déposer plainte. Naïma Makri est responsable des violences intrafamiliales à la préfecture de police de Paris.
L'idée, c'est de favoriser la libération de la parole de la victime, de la mettre dans les conditions les plus appropriées pour qu'elle puisse dénoncer les faits qu'elle a subis. Donc ça peut être à domicile, chez un ami, un membre de sa famille ou dans d'autres lieux institutionnels dans lesquels elle se sent à l'aise, les lieux de soins, dans le bureau de l'avocat, si elle a déjà pris un avocat.
Jusqu'ici, la seule alternative au commissariat était l'hôpital, une mesure du Grenelle contre les violences conjugales qui fonctionne bien, selon Naïma Makri.
Les retours qu'on a de ces victimes, c'est qu'en fait, elles n'auraient pas franchi la porte d'un commissariat. Parfois, certaines l'ont fait, et ça s'était pas forcément bien passé, ou ça a été plus difficile parce qu'elles ont dû attendre avant de pouvoir déposer plainte, alors que là, elles ont un rendez-vous sans toute l'agitation d'un commissariat.
Reste le problème de l'accueil parfois problématique des victimes par les forces de l'ordre. Des centaines de femmes en avaient témoigné en octobre avec le hashtag double peine. Là-dessus, la préfecture de police de Paris s'engage à poursuivre la formation des agents sur la question, avec aussi un livret pour mieux accompagner les victimes de violences sexuelles.
À déposer plainte en dehors du commissariat, c'était possible dans le Vaucluse, le Pas-de-Calais, la Haute-Corse, la Sarthe et plusieurs arrondissements parisiens. Cela concernera aussi la ville de Saint-Denis, pas encore toute la France donc. La police et le dialogue. Le gouvernement joue sur les deux tableaux en Guadeloupe. Le climat reste à la tension dans l'archipel. Hier, le procureur de Pointe-à-Pitre a confirmé que des armes et des munitions avaient été volées aux gardes-côtes avant le week-end. Les pillages sont le fait de voyous, de bandes qui se servent de la crise sanitaire et sociale pour exercer leur violence, selon le ministre des Outre-mer. 90 interpellations depuis le début de la crise, c'est ce que précise le ministre de l'Intérieur au micro de France Inter, Gérald Darmanin.
C'est une situation très difficile en Guadeloupe aujourd'hui. Et d'ailleurs, je veux avant tout dire que nous condamnons toute forme de violence qui sont fortes. Il y a eu des tirs à balles réelles sur les gendarmes. Et il y a des barricades qui sont mises pour empêcher les gens de circuler, d'aller à leur travail, pour empêcher par exemple les dialysés d'aller à l'hôpital, pour empêcher les repas d'être livrés au centre hospitalier. C'est pour ça que nous avons décidé l'envoi de forces très importantes pour rétablir l'ordre public. Ils sont arrivés dimanche. La situation est toujours très difficile, puisque le travail des forces de l'ordre, c'est pas non plus de rajouter et de participer à cette violence, c'est de le faire dans des façons, dans une nuit très difficile. Ce qui est certain, c'est que le rétablissement de l'ordre public est le préalable à toute discussion, évidemment.
250 policiers et gendarmes ont été envoyés en renfort. La Guadeloupe vit au rythme du couvre-feu. Mais en même temps, le gouvernement ne considère pas tous les manifestants comme des émeutiers. Après l'échange entre les élus locaux et le Premier ministre hier soir, en visioconférence, puisque Jean Castex est positif au Covid, une instance de dialogue doit voir le jour pour convaincre et accompagner les soignants et pompiers qui refusent toujours l'obligation vaccinale. Seulement 43% des pompiers de Guadeloupe sont vaccinés, 87% des soignants. Concession à ceux qui craignent les produits à ARN. Le gouvernement s'engage à fournir des vaccins d'autres types, comme Janssen ou AstraZeneca. Est-ce que ces nouveaux éléments convainquent ceux qui ne veulent pas du vaccin anti-Covid parmi les soignants? Ce n'est vraiment pas sûr. À en croire ce reportage de Farid Anouar et Laurent Maquetti dans l'un des épicentres de la crise, le CHU de Pointe-à-Pitre.
Sous son barnum, dans l'entrée du CHU, l'ENA soignante suspendue n'a même pas pris la peine d'écouter le Premier ministre.
Mais non, j'ai pas écouté parce que je savais ce qu'il allait répondre. Ils n'ont aucune solution à nous apporter, sauf d'enlever cette loi conne.
La création d'une instance de dialogue pour convaincre et accompagner les soignants non vaccinés est une pure perte de temps, résume Roselyne, qui aurait préféré
créer une commission pour être au point avec ce que nous ressentons, qui soit traduit après à nos parlementaires. Parce que chose qui est quand même illogique, depuis la pause du préavis de grève, aucune personne ne nous a rencontrés. Comment les gens peuvent aller parler pour nous, ne sachant pas ce que nous voulons?
Même sentiment chez Stéphanie, technicienne de laboratoire.
Ce qu'on a demandé, c'est une négociation par rapport à nos revendications et non pas une énième explication de l'intérêt de la vaccination. C'est pas ça qu'on veut.
Des soignants dont la conviction reste immuable.
En tournant rond, les gens qui ont décidé de ne pas se faire vacciner, ce sont les gens qui sont convaincus.
On va pas faire marche arrière. Hein. Moi, je reste sur ma position, à savoir que je ne prendrai pas de vaccin.
Une mission du ministère de l'Intérieur sera activée dès aujourd'hui pour examiner avec les professionnels de santé les conditions pour le déploiement de l'obligation vaccinale.
Et il était reproché au ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, de ne pas aller en Guadeloupe. Aller sur place maintenant présente une surcharge pour les forces de l'ordre, répond-il, mais on va y aller. À la veille d'un nouveau conseil de défense sanitaire en pleine nouvelle vague fulgurante de Covid, le ministre de l'Intérieur annonce par ailleurs un renforcement des contrôles du pass sanitaire dans les hôtels et restaurants dans toute la France. De 20 000 par semaine en septembre-octobre, on est passé à 50-60 000, dit Gérald Darmanin. Est-ce que de nouvelles mesures seront annoncées demain? Le conseil scientifique plaide pour que tous les adultes puissent bénéficier d'une dose de rappel. La question de l'extension de cette troisième dose sera examinée, confirme Olivier Véran. Trois candidats à la présidentielle, Michel Barnier, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, demandent le rétablissement de la gratuité des tests anti-Covid pour tout le monde. Autre question de santé publique, l'épidémie de bronchiolite qui touche la France. Le premier pic à la Toussaint était nettement plus élevé qu'il y a 2 ans, on oublie l'année 2020. 1500 hospitalisations, 2 fois plus qu'en 2019. Une nouvelle vague est en cours de cette maladie qui touche les plus petits. Bonjour Christelle Gras-Le-Gouen.
Bonjour.
Vous êtes la présidente de la Société des pédiatres. On a une épidémie plus importante, plus virulente que les autres années?
Alors elle est plus importante parce qu'elle a commencé plus tôt.
Oui.
Et elle est particulièrement intense parce qu'il y a beaucoup de plus de patients que les années précédentes. Pour autant, elle n'est pas plus grave.
Elle n'est pas plus grave.
Elle concerne beaucoup d'enfants.
Plus de patients à l'hôpital et qui nécessitent des soins importants.
Alors il y a une proportion d'enfants, en particulier les tout-petits, hein, les moins de 3 mois, qui sont gardés hospitalisés et qui parfois relèvent de soins critiques et de réanimation. Mais pour l'immense majorité des autres, c'est une maladie bénigne qui amène pourtant les gens à l'hôpital et c'est là où il y a embouteillage.
C'est important de rappeler que c'est une maladie qui touche les tout-petits et qui est effectivement bénigne dans la plupart des cas, même si cette année elle est un peu plus méchante, disons, cette bronchiolite.
Alors, c'est pas qu'elle est plus méchante, c'est que comme il y a beaucoup d'enfants infectés, le système de soins est un peu saturé et les familles ont du mal à trouver le médecin qui va pouvoir voir leur enfant dans des délais corrects. Et donc, ces familles s'accumulent dans les urgences où les conditions d'accueil sont pas du tout satisfaisantes en ce moment.
On parle de l'engorgement des hôpitaux beaucoup en ce moment, engorgement du coup des services pédiatriques également.
Absolument, les services d'urgence pédiatrique sont totalement saturés, les services de pédiatrie aussi. On transfère des patients qu'on ne peut pas prendre en charge sur place. Et ça, comme tous les hivers, finalement, sauf celui de l'année dernière. Et donc, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment qu'on puisse mobiliser l'attention des décideurs pour faire évoluer les choses et que ça ne soit pas une fatalité comme tous les hivers où des centaines d'enfants sont admis en réanimation, transférés dans des conditions qui sont toujours de crise.
Est-ce que de ce point de vue-là, c'est particulièrement compliqué cette année, notamment à cause du Covid ?
Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, les équipes sont fatiguées, oui. Que les parents sont à cran et que on voit bien que la crise a déjà malmené le système de santé français. Et donc, dans ce contexte, c'est compliqué de demander de nouveau aux équipes de se mobiliser. Vous voyez, dans l'hôpital où je travaille, on a triplé les listes de garde. On revient à deux ou trois faire des visites le samedi et le dimanche pour pouvoir assurer les sorties et le turnover des patients. Et ça, c'est compliqué.
Vous imaginez ou vous anticipez plus précisément un pic de cette épidémie quand ?
Alors, c'est difficile d'être très précis puisque oui. L'évolution est variable et puis elle dépend de tout un tas de choses, comme par exemple des vacances scolaires ou des week-ends. Mais on s'attend à un pic d'ici 2 à 3 semaines. Donc, il faut encore tenir jusqu'aux vacances de Noël, en tout cas.
Est-ce que c'est une maladie qui peut toucher aussi les adultes ? Au fond, c'est un virus respiratoire. Ça peut toucher les adultes et ça déclenche quel type de maladie chez les adultes, si c'est le cas ?
Alors, c'est une question très intéressante parce qu'effectivement, l'année dernière, vous voyez, quand les adultes étaient masqués et que les petits-enfants allaient en crèche ou à l'école maternelle, le virus n'a pas circulé. Oui. Et donc, oui, bien sûr, ce virus, il touche les adultes, mais sous la forme d'un petit rhume, de oui. choses tout à fait bénignes. Et donc, notre appel cette année, c'est vraiment un appel aux adultes pour qu'ils puissent se protéger et du coup protéger les tout-petits qui font les formes graves de la maladie et qui se retrouvent en réanimation.
Parce qu'on parle de maladie d'enfants, mais ils peuvent donc être transmetteurs s'ils sont touchés eux-mêmes.
Ils sont les principaux transmetteurs. Encore une fois, l'année dernière, il n'y a pas eu d'épidémie de bronchiolite quand les adultes étaient masqués.
Merci, Madame Christelle Gras-Legren, présidente de la Société des pédiatres, d'avoir pris quelques minutes pour répondre à nos questions. Voici un vote à près de 400 milliards d'euros pour 7 ans. C'est près de 10 milliards par an pour la France en particulier, ses agriculteurs. Le Parlement européen vote aujourd'hui la nouvelle politique agricole commune. Elle se veut plus verte, même si ce n'est pas la révolution nécessaire pour les écologistes. La mesure phare, c'est l'obligation faite aux États de verser un quart des paiements directs aux agriculteurs qui prennent des engagements de respect de l'environnement particulièrement importants. Bonjour Angélique Boin.
Bonjour.
En direct de Strasbourg où se tient le vote, autre particularité de cette PAC, Angélique, elle donne plus de latitude aux États.
Oui, c'est la plus ancienne politique communautaire et à partir de 2023, elle va en effet se renationaliser en partie. Alors en partie seulement, chaque État doit présenter d'ici la fin de l'année son propre plan stratégique, mais sur la base de recommandations émises par la Commission et en respectant évidemment les grands équilibres de la politique commune que l'on vote aujourd'hui. L'idée, c'est de mieux tenir compte des spécificités locales. Il y a 10 millions d'exploitations qui couvrent 38% de la superficie de l'Union, selon des chiffres de 2018, et on ne cultive pas pareil, évidemment, en Italie ou en Lituanie, à l'Est ou à l'Ouest. C'est ce qu'explique Jérémy de Serles. Il est eurodéputé centriste, éleveur lui-même, et il a négocié ce texte au Parlement européen.
C'est pas de donner de la latitude aux États membres pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent. C'était juste pour qu'ils puissent adapter leur politique en fonction des spécificités, de l'historique, du climat aussi qu'il existe dans chacun de ces pays, qu'on puisse mettre en place des pratiques qui sont vraiment en adéquation avec les besoins des agriculteurs et avec les besoins aussi du sol et de l'environnement.
Et puis Angélique, les États doivent respecter les engagements environnementaux de l'Union européenne, les gaz à effet de serre, les pesticides. Est-ce que ce sera contrôlé ?
Oui, la Commission va contrôler l'utilisation de ces fonds et s'intéresser évidemment à la cohérence globale de ces plans avec les objectifs du pacte vert. Elle va s'assurer par exemple que les aides vont à des agriculteurs qui utilisent moins de pesticides, mais l'objectif pourtant affiché des 27 de baisser précisément de 50% leur usage d'ici 2030 ou alors l'augmentation de 25% de la part du bio, ces objectifs dans cette nouvelle PAC ne sont pas assez contraignants. C'est ce que dénoncent avec force les écologistes.
Angélique Bon, en direct de Strasbourg pour France Inter, où le vote a donc lieu aujourd'hui sur cette politique agricole commune. Par ailleurs, à Paris, le gouvernement dit mettre plus de moyens pour lutter contre le mal-être des agriculteurs. Un suicide tous les 2 jours. De nouveaux référents, notamment au sein des mutualités sociales agricoles. Le budget consacré à ce sujet très douloureux va passer de 29 à 41 millions d'euros par an.
Ceux qui suivaient l'actualité dans les années 90 se souviennent de ces guerres au cœur de l'Europe, dans les Balkans, en Bosnie-Herzégovine en particulier. Ce conflit-là, qui avait opposé musulmans, serbes, croates, pourrait-il se réveiller? Le pays est devenu un État fédéral, mais il reste fragile. Les dirigeants de l'entité serbe envisagent de faire sécession. Le climat politique se dégrade à nouveau en cette fin 2021. Reportage en République serbe de Bosnie, dans la ville de Palais, Louis Seyer.
Chauffeur de taxi, Mladen parcourt régulièrement les routes qui relient Sarajevo et la Republika Srpska, l'une des deux entités de Bosnie-Herzégovine.
C'est catastrophique, qu'ils soient serbes ou musulmans, tous mes clients sont mécontents de cette situation. Les gens veulent avoir à manger et pas devoir faire la guerre.
En annonçant la création d'une armée autonome, le membre serbe de la présidence bosnienne a ravivé les craintes d'un retour des violences communautaires, 26 ans après la signature des accords de paix. Une situation qui désespère Stéphane, un restaurateur de 28 ans.
Ces tensions m'inquiètent moi aussi. J'ai toujours peur qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait des affrontements. Ça joue sur le travail et le moral des gens.
Depuis 30 ans, les partis nationalistes n'ont cessé d'alimenter les divisions et les trois communautés ne partagent souvent plus grand-chose dans leur quotidien. Coiffeuse, Dragana approuve l'idée d'une séparation.
C'était la même chose avec la guerre. Les musulmans voulaient leur pays et nous le nôtre. Aujourd'hui, on ne parle pas beaucoup de ces possibilités et on n'entend que parler des victimes de la guerre tout le temps. Ça ne fait que semer plus de haine. Il faudrait qu'on se sépare pour en finir.
Terminée il y a tout juste 26 ans, la guerre de Bosnie-Herzégovine a fait plus de 100 000 morts et plus de 2 millions de déplacés. Palais, Louis Seyer, France Inter.
Les États-Unis mettent plus de pétrole sur le marché pour faire baisser les prix. Ils annoncent aujourd'hui puiser dans leur réserve stratégique et utiliser 50 millions de barils puisés dans cette réserve. Les prix du baril sont au-delà des 70 et même 75 dollars. Recherche d'épaves et parfums de romans d'espionnage en Méditerranée au large de la Libye. On cherche au fond de l'eau un avion de combat britannique, un F-35, qui s'est crashé la semaine dernière. Le pilote a pu s'éjecter. Mais l'épave de l'appareil intéresse beaucoup de monde. Les Anglais, bien sûr, mais aussi les Américains qui ont fabriqué l'avion, et les Russes et les Chinois. Franck Cognard nous raconte cette histoire.
Mercredi dernier, à 10h du matin, peu après son décollage et pour une raison encore inconnue, le F-35 décroche, le pilote s'éjecte et l'avion coule par 1500 mètres de fond à peu près. Depuis, évidemment, les Britanniques et les Américains surveillent la zone du crash parce que cette épave, et ce n'est pas uniquement à cause des 130 millions de dollars que coûte cet avion furtif, cette épave pourrait être un vrai trésor pour des nations comme la Russie et la Chine. Pierre-Henri Chouet, nom de pilote athée, un ancien de l'aéronaval, aujourd'hui conférencier.
Le premier point, c'est d'un point de vue presque, j'ai envie de dire, politique. C'est-à-dire avoir la capacité d'aller récupérer l'avion qu'un adversaire a perdu, c'est, en temps de paix, c'est difficile de faire plus fort. Après, d'un point de vue purement opérationnel, je pense que c'est principalement au niveau des alliages, principalement au niveau des revêtements que ça va être intéressant. Tout le fantasme autour de la furtivité, même si les autres pays, comme les Chinois et les Russes, affirment à l'heure actuelle faire des avions furtifs.
Peut-être aussi que les logiciels embarqués peuvent intéresser, mais leur état après des jours sous l'eau n'est pas garanti. Maintenant, la vraie prouesse n'est pas la localisation de l'avion, mais son éventuelle remontée, qui nécessite des matériels très spécialisés. Peu de nations ou d'entreprises savent le faire. Ce n'est pas un sport de masse, résume un responsable de la Marine nationale.
Voilà pour cet avion britannique. Quant au Premier ministre britannique, eh bien, il est apparu un peu perdu hier lors d'un discours devant les patrons de son pays. Perdu dans ses feuilles pendant 20 longues secondes. Discours raté et outre-Manche, on y voit le symbole d'un bojo Boris Johnson en difficulté politique. France Inter à Londres, Richard Place.
Il y a d'abord un long silence gêné, ponctué de « pardonnez-moi ». Il cherche la bonne page. Puis il parle de Peppa Pig, un personnage de dessin animé qu'il décrit comme un sèche-cheveux dessiné par Picasso, ou encore l'imitation d'un moteur de voiture. Le tout devant les grands patrons britanniques. Boris Johnson s'est amusé la galerie et ses discours sont souvent de véritables spectacles. Mais cette fois, sa majorité ne rit plus de si bon cœur. Hier soir, une loi sur l'aide sociale était soumise au vote à la Chambre des communes. 68 députés conservateurs ont préféré ne pas se prononcer, 19 ont même voté contre. Le texte est passé, mais avec une défiance claire dans son propre camp. Lors de cette sale journée, Bojo a également dû écouter un discours surprenant de son propre ministre du Brexit, David David Frost semblait le mettre en garde sur la nécessité impérieuse de baisser les impôts sur les sociétés. Selon ce poids lourd du gouvernement, la sortie de l'Europe ne marchera pas si Londres essaie d'importer le modèle social européen. Johnson a mené les conservateurs à la victoire dans toutes les élections depuis qu'il occupe le 10 Downing Street, au point que, dans l'immédiat, l'opposition ne peut pas grand-chose contre lui. Le danger ne peut venir que de ses propres amis, et certains semblent se lasser de ce leader fantasque. Londres, Richard Place, France Inter.
Le bouclier tarifaire joue bel et bien. Les prix réglementés du gaz resteront stables en décembre, annonce ce matin de la Commission de régulation de l'énergie. La moitié des personnes qui font appel au Resto du Cœur ont moins de 25 ans. 40% sont mineurs. C'est un des constats que dressent les bénévoles héritiers de Coluche au moment de lancer la 37e campagne des Restos. C'était une interview ce matin sur France Inter à 6h20 au micro de Mathilde Munoz. Vous pouvez la réécouter sur franceinter.fr. Des personnes isolées aussi parmi les bénéficiaires qui sont en tout 1 200 000. Les activités de rue des restos type Maraude ont augmenté de 25% en 2 ans. Pour repérer ceux qui en ont besoin, les aider, les restos développent des centres mobiles, des camions itinérants. Illustration à Saint-Gauthier, au sud de Châteauroux. C'est un reportage de Manon Klein de France Bleu Berry.
Une quinzaine de personnes attendent déjà sur le parking avant même l'ouverture. Il faut d'abord décharger le camion.
Au revoir. Alors.
Salut Jean-Claude.
Donc tu connais Jean-Claude.
3 bénévoles gèrent la distribution.
Et vous avez du pain aussi.
Sabrina repart avec un petit colis de secours.
Une tarte au chocolat, un paquet de pâtes, des gâteaux, 1 litre de lait, une pomme.
Cette habitante de Saint-Gauthier se félicite de l'avenue de ce centre itinérant.
C'est mieux pour ceux qui n'ont pas le permis, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, surtout en fin de mois, les gens qui n'ont pas les moyens de mettre du gazole pour aller jusqu'à Argenton. C'est pas plus mal, ça les arrange.
Argenton, c'est le centre fixe des Restos du Cœur, le plus proche, à une quinzaine de minutes en voiture. La zone de tournée du centre itinérant n'a pas été choisie au hasard, comme l'explique Lionel Alvé, coordinateur de l'opération.
On s'est aperçu que dans le sud de l'Indre, Bélab, Chaleillac, Saint-Benoît, Aiguzon, Saint-Gauthier, il y avait une zone blanche, mal desservie par les Restos du Cœur. On ne sait pas les besoins encore. Hein. On imagine, en tout, sur les 4 communes que j'ai citées, 61 familles, 134 adultes, 864 repas par semaine.
Toute une logistique financée en grande partie par le plan France Relance du gouvernement.
Et pour donner au resto, je vous rappelle l'adresse du site restoducœur.org. Il y aura des propositions dans les 15 jours contre la violence dans les stades de foot. Promesse ce matin du ministre de l'Intérieur après une réunion avec les huiles du foot français. Nous sommes 2 jours après le jet de bouteille qui a touché Dimitri Payet à la tête lors de Lyon-Marseille. La réunion se tenait à Place Beauvau avec également les ministres de la Justice et des Sports. Bonjour Romain Bercher.
Bonjour Bruno.
Quelle piste de travail?
4 principales. D'abord la sécurisation des stades. L'idée de généraliser les filets de protection entre les tribunes et la pelouse semble faire son chemin. La question des stadiers aussi est évoqué. La sécurité privée donc sur la table pour de meilleurs contrôles avant les rencontres. Autre piste, l'amélioration des relations État-Ligue-Arbitre lorsqu'il faut prendre cette décision d'interrompre définitivement un match. En clair, accélérer les prises de décision, histoire d'éviter un énième cafouillage à l'image de ce qui s'est passé dimanche dernier pendant Lyon-Marseille. Également, un durcissement des sanctions qui n'est pas exclu, admet Gérald Darmanin. Du côté de la Ligue, évidemment, on approuve. Son président Vincent Labrune insiste surtout sur l'unité de la famille football.
On a fait une réunion très constructive où tout le monde s'est entendu très rapidement sur les objectifs. Il faut qu'on se donne les moyens de réussir. C'est un fléau, c'est une urgence absolue. On a conscience de nos responsabilités. Je voulais remercier aussi ce garde des Sceaux. Les choses évoluent positivement également au niveau judiciaire parce qu'on a besoin d'un suivi judiciaire fort.
C'est le dernier point, le volet réglementaire, on vient de le voir. Mais d'abord et surtout le volet judiciaire, ces interdictions de stade. Le ministre de l'Intérieur a reconnu qu'avec la crise Covid, ces 18 mois de pandémie, beaucoup de huis clos, eh bien un certain nombre de ces interdictions sont arrivées à leur terme.
Et la personne accusée d'avoir jeté la bouteille contre Dimitri Payet passe en comparution immédiate cet après-midi. Et au stade de l'OL, le prochain match se jouera à huis clos, en attendant peut-être des sanctions plus lourdes. Alors il y a quelques abrutis dans les stades, il y en a parfois aussi à l'extérieur. Au lendemain de Lyon-Marseille, un autre match a été émaillé de violence hier soir. C'était avant la rencontre Dijon-Auxerre, Ligue 2, derby bourguignon. Bagarre générale dans un bar de Dijon, l'Acropole qui a été saccagée, des dizaines de personnes sont impliquées. Le patron Éric Barougier doit changer toutes les vitres de son établissement.
Il y avait une trentaine de supporters de Dijon qui étaient là en train de boire un coup pénard depuis 1 heure. Tout se passait bien et d'un coup, là, il y en a 70-80 qui sont venus habillés en noir et ils ont tout cassé, ils sont battus, ils ont insulté, cassé le mobilier, fumigène, brûlé les meubles. Voilà, ça a duré 3 minutes. On n'a jamais confronté à ça, mais en fait, ils étaient interdits de centre-ville de Dijon, donc ils se sont écartés un peu, et chez Lou que c'est tombé. Oui, j'ai porté plainte pour l'assurance, pour réparer les baies qui sont cassées, d'essayer d'avoir un petit dédommagement, quoi.
Propos recueillis par Philippe Renaud de France Bleu Bourgogne, ce soir du foot sans violence, si possible, de la Ligue des Champions. Lille reçoit Salzbourg. Demain, Manchester City contre le PSG. Verra-t-on enfin Sergio Ramos, la star espagnole, sous le maillot parisien, recruté cet été, il n'a jamais joué à cause d'une blessure au mollet. Il est dans le groupe convoqué pour le match de demain. Et puis on retiendra ces propos de Lionel Messi au quotidien sportif espagnol Marca. Il manque encore des choses au PSG pour être une équipe vraiment forte, dit l'Argentin. Allez, pour une fois, les petits sont arrivés avant les gros. La Transat Jacques Vabre entre Le Havre et Fort-de-France en Martinique touche à sa fin. En tout cas pour les leaders, il y a quatre catégories. Les tout premiers à franchir la ligne hier soir étaient à bord d'un multicoque de 15 mètres, les Ocean 50. Sébastien Rogue et Mathieu Souben à bord de Primonial. On attend maintenant les géants des mers, les ultimes. Leur parcours était plus long. Bonjour Jérôme Val.
Bonjour Bruno.
Vous êtes à Fort-de-France avec Sandrine Malon. C'est le duo Camas-Caudrelier qui est sur le point de l'emporter, Jérôme.
Et on les attend toujours. Alors, il faut dire, hein, Bruno, que le final de ce parcours est un peu laborieux pour le maxi trimaran Edmond de Rothschild. Passage de ligne dans moins de 2 heures maintenant. Le duo est actuellement en approche du diamant, le rocher emblématique de la Martinique, mais à toute petite vitesse, même pas une quinzaine de nœuds, 30 km/h, vitesse pas vraiment conforme au potentiel de ces bateaux. Mais ces derniers jours, c'est vrai, les vents ont décidé de jouer des mauvais tours aux marins qui avancent péniblement, mais l'essentiel est ailleurs pour Franck Camas et Charles Caudrelier. Ils vont remporter cette lutte chez les ultimes qui font leur retour dans cette Transat Jacques Vabre. Ils étaient absents lors de la précédente édition il y a 2 ans. Franck Camas, ce sera ça. 4e victoire à titre personnel, 2001, 2003, 2007 et maintenant 2021. Charles Caudrelier, sa 3e victoire, 2009, 2013. Et donc, cette année, encore une fois, à eux deux, à ces deux marins, c'est 7 victoires dans la Transat Jacques Vabre. C'est assez impressionnant.
En effet, oui, Jérôme Val avec Sandrine Malon pour France Inter. Elle raconte de manière drôle, tendre, parfois cruelle, l'univers du cinéma, la série 10%. Call My Agent, en anglais, est à nouveau primée meilleure comédie aux International Emmy Awards pour ses 4 saisons de la vie dans une agence d'acteurs. La série a été lancée sur France Télévisions en 2015. 20 remakes ont déjà été signés. Pour une partie des acteurs, 10% a marqué leur révélation aux yeux du grand public. Laure Calamy, Camille Cotin ou encore Nicolas Maury qui joue Hervé.
Nous sommes tous les lauréats, c'est-à-dire que ce qui est magnifique avec une série, c'est qu'il y a un sentiment collectif, et surtout quand on est célébré. Donc moi, ce qui m'a beaucoup émue ce matin au réveil très très tôt, c'est les messages de Dominique Besnéard qui dit merci. Et c'est vrai que plus que jamais, ça nous embarque dans une histoire commune, encore plus d'être regardé par les ricains, quoi. Et là, ils dorment ou ils sont affalés sous des bars remplis de champagne. Non, je sais pas. J'espère qu'ils l'ont en tout cas fêté et qu'ils sont remplis de joie, comme nous ici. Et puis un sentiment, et c'est pas du tout un sentiment chauvin, mais pourquoi on se réjouit quand on gagne la Coupe du Monde du foot? Et pourquoi on n'aurait pas droit, nous aussi, les artistes, de célébrer là où on se sent parfois peut-être un peu moins bon que certains autres pays. En fait, c'est un signe très clair et très fort que, ben voilà, il faut compter sur la France pour les fictions étrangères maintenant.
Nicolas Maury avec Alexandra Akoun, il parlait de Dominique Besnéard, lui-même agent de star et qui a eu l'idée de cette série. Dans un instant, la météo, puis l'invité du 13-14.
France Inter présente
Femme puissante, saison 2.
Le nouveau livre de Léa Salamé.
On dit qu'elles sont belles, charmantes, intelligentes, parfois dures ou manipulatrices, mais on dit encore trop rarement des femmes qu'elles sont puissantes.
11 entretiens pour explorer de nouvelles manières d'être femme aujourd'hui.
Médecin, avocate, historienne, écrivaine ou politique.
Elle se dévoile avec générosité et sincérité.
Femme puissante, saison 2.
De Léa Salamé, une coédition France Inter.
France 2.
Elles ont été victimes de violences conjugales, certaines ont failli en mourir. Elles témoignent dans Infrarouge.
Et là, je prends une gifle, mais une gifle qui m'assomme. Enfin, réellement, elle me fait tomber par terre, quoi.
Amour à mort, un documentaire Infrarouge présenté par Marie Drucker. Demain soir à 22h45 sur France 2.
13h29.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Il y a du soleil au nord, mais ça se dégrade au sud, Elodie.
Oui, sur les régions du nord, en effet, un beau soleil. Alors un petit peu plus de nuages tout de même sur le littoral du nord de la Bretagne, le nord du Cotentin ou le nord Pas-de-Calais, avec parfois une petite averse. Toujours ce vent de nord-est bien désagréable. 5 degrés seulement à Besançon, 6 à Nancy et Dijon, 8 à Nantes, 9 degrés à Paris et 11 à Deauville. Et puis en allant vers le sud, on a de bons moments de soleil, mais quand même quelques grisailles qui résistent du nord du massif central au Lyonnais. Sur la Corse, quelques averses. Et puis de l'Occitanie au sud de l'Aquitaine, là ça se gâte, avantage pour les nuages, quelques pluies. Sur le Languedoc-Roussillon, ces pluies vont devenir marquées et parfois orageuses. C'est de la neige sur les Pyrénées vers 1800 mètres. Ce temps agité va persister toute la journée de mercredi sur le Languedoc-Roussillon. Et puis pour les températures, seulement 6 degrés à Clermont-Ferrand, 11 à Bordeaux, 13 à Montpellier, mais 19 pour Ajaccio.
Elodie Calac, Météo France, il est 13h30.
France Inter, le 13-14, Bruno Duvy.
1 million de chasseurs en France, 1 million revendiqués par la Fédération Nationale de la Chasse en cette année électorale. Ils ont des soutiens et des détracteurs dans à peu près tous les partis politiques. Le soutien le plus ferme chez les LR peut-être, les détracteurs les plus actifs au sein d'Europe Écologie Les Verts et de la France Insoumise. Et c'est le candidat écologiste Yannick Jadot qui a relancé le débat après 2 accidents de chasse en cet automne, un mortel notamment, un automobiliste tué par une balle perdue, interdire la chasse pendant les week-ends et vacances scolaires. Depuis le tout début des années 2000, on recense plus de 3400 accidents de chasse, 19 morts par an en moyenne. Il n'y a pas de risque zéro, répond le président de la Fédération des chasseurs. Il oriente le débat autrement en proposant que les chasseurs soient davantage associés à la politique environnementale en forêt. Alors la chasse, plaisir de tradition ou plaisir mortifère? J'attends vos questions au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter, rubrique Réagir. Notre invité est le président de la Fédération Nationale de la Chasse, Willy Schrein. Bonjour monsieur.
Bonjour.
C'est un sujet très polémique, vous le savez. Une partie des gens, très probablement parmi ceux qui nous écoutent, ne comprennent pas le plaisir que prennent les chasseurs dans leur activité. Dites-nous, pourquoi vous chassez? Quel plaisir, quelle satisfaction vous y trouvez?
Le plaisir effectivement de chasser, alors c'est très global, hein. Il y a les liens sociaux, il y a le partage, il y a la transmission, et il y a ce rapport avec les animaux et le vivant qui, je dirais, le plus vieux rapport que nous ayons, d'ailleurs le plus sain, le plus normal. Ouais. Celui qui a fait que l'espèce humaine, à un moment, ça a dû s'élever effectivement au-dessus des autres espèces, et cette convoitise du vivant aussi, qu'il soit animal ou végétal. Voilà. Évidemment, les temps ont changé, on ne chasse plus spécifiquement pour se nourrir, mais on a gardé effectivement dans notre ADN, cette passion, cette envie et ce besoin de chasser des animaux. Bon, voilà, tout en ayant tout à fait en tête et en conscience que nous ne le faisons plus dans le but uniquement de se nourrir. Il y a une forme de plaisir, évidemment, qui nous paraît extrêmement naturelle dans la pratique de la chasse.
Vous avez présidé la Fédération du Pas-de-Calais en 2010, puis la Fédération Nationale depuis 2016. Est-ce que vous avez l'impression, Willy Schrein, que l'écologie, l'attention à la nature, le besoin de nature révélé par le confinement prenant de plus en plus d'importance, le regard sur la chasse et les chasseurs s'est durci au fil des années?
Il a changé, c'est une évidence, il a changé. Peut-être que nous n'avons d'ailleurs pas su anticiper ce changement et on ne l'a peut-être pas tout à fait compris à un moment, probablement. On s'est beaucoup caché, on a préféré, je dirais le trou de l'autruche plutôt que d'affronter les réalités de notre passion et surtout de l'expliquer. Ouais. Moi, je dis souvent, si la chasse avait été correctement expliquée, j'aurais même pas la défendre aujourd'hui. Ouais. Bon, elle est perçue souvent comme quelque chose de cruel, de barbare. Elle est perçue aussi par beaucoup de gens comme quelque chose qui fait peur. Voilà. Et on a effectivement aujourd'hui ça à gérer. Alors quand en plus vous avez des gens qui jettent un petit peu d'huile sur le feu à des fins politiques et juste avant une élection présidentielle, bon ben vous avez tout, je dirais toute l'équation de quelque chose qui peut faire une polémique persistante et permanente jusqu'au premier tour de la présidentielle.
Et vous dites vous n'avez pas venu senti monter au fond le mouvement de ceux qui regardent plus durement qu'auparavant la chasse. Vous l'avez pas vu venir au fil des années?
On l'a pas vu venir pour une raison toute simple, parce que la chasse se passe sur des territoires privés à 85% pour la forêt et pratiquement à 100% pour le territoire agricole. Donc à partir de là, je pense que mes prédécesseurs, je leur en veux pas du tout, d'avoir imaginé qu'on pouvait pas remettre en cause quelque chose qui était directement lié avec, je dirais, au droit de propriété. Mmh. Mais bon, les gens l'entendent pas comme ça. Puis est arrivé ensuite le discours de dire non, mais la nature, c'est à tout le monde. Alors, on sait bien qu'elle est pas à tout le monde. Il y a de la propriété privée derrière tout ça. Mais à force de le répéter, c'est aussi entrer dans les mœurs des gens de dire non, moi, je prends ma voiture le dimanche après-midi, je fais 50 ou 100 kilomètres, je m'arrête et tout ce qui est devant moi est à moi. Et je peux en jouir et m'y promener. Bon, c'est pas tout à fait comme ça la réalité. Néanmoins, c'est ce que pensent beaucoup de gens aujourd'hui.
La question du partage de la nature. Question de Gérard, au standard. Bonjour, Gérard.
Bonjour.
Je précise que vous êtes ingénieur en énergie solaire, mais ça n'a pas de lien direct avec votre question. Je vous écoute.
Oui, moi je propose peut-être à mi-chemin, couper la poire en deux, mais pourquoi ne pas interdire la chasse le mercredi, le samedi et le dimanche, mais uniquement l'après-midi, pour pouvoir laisser les familles, les enfants librement l'après-midi. Les chasseurs, c'est surtout le matin quand même. Voilà.
On parlait à l'instant, Willy Schren, de partage de la nature. Est-ce que vous êtes prêt à réduire les temps de chasse pour assurer un partage, pour que ceux qui veulent se promener et qui craignent les chasseurs puissent le faire en toute tranquillité?
Non. On peut discuter de tout. Le dialogue est ouvert. Bon, il faut
quand même
recadrer un petit peu ce qui vient d'être dit, et j'entends ce que dit Gérard, mais on a déjà un partage de la nature. La chasse, c'est pas toute l'année. Parce que ce qui pose problème, et ce qui je dirais, génère des conflits d'usage entre chasseurs et non-chasseurs, c'est surtout la partie battue, qui a lieu en période automnale et hivernale. C'est-à-dire, grosso modo, on va dire 4 à 5 mois par an. Mmh. Donc, il y a déjà, dans le temps, un partage de la nature. Toute l'autre période, il n'y a pas de chasseurs. Ou s'il y en a, c'est des gens à l'approche et vous ne le voyez même pas. Et il n'y a jamais eu un accident ni un problème avec ce genre de chasse. C'est bien la battue qui génère effectivement des conflits d'usage. Donc il y a déjà un partage. Ensuite, on partage le domaine public. C'est extrêmement réglementé, que ce soit les forêts domaniales, une partie des forêts communales. Il y a des jours de chasse qui sont donnés, ils sont connus à l'avance. Ils ne peuvent être supérieurs qu'à un, souvent par semaine. Et quand on est dans le périurbain, la chasse est déjà interdite le week-end ou le mercredi.
Donc ce que vous nous dites, c'est que le cadre existe, c'est pas la peine de le rendre plus strict pour les chasseurs. Quand Yannick Jadot propose d'interdire le week-end ou pendant les vacances scolaires, alors c'est une proposition haute, on va dire, mais vous dites on veut pas que le cadre bouge, on veut pas réduire.
Je dis pas qu'on veut pas que le cadre bouge, on peut discuter de tout. Je dis qu'il y a quand même un malaise profond à discuter de quelque chose qui vous appartient. Vous êtes chez vous, vous chassez dans votre forêt, c'est votre propriété. On est quand même en train de vous expliquer dans un pays qui a inventé les libertés,
oui,
le concept des vanités, des libertés individuelles, que chez vous, vous n'avez plus le droit. Donc à partir de là, on fait
quoi ? On vous dira ça qu'une balle perdue, que vous soyez chez vous ou pas, ça reste une balle perdue.
Peut-être, mais alors, allez chez vous, je dirais à la rigueur. Je dirais, nous, on se bat pour la sécurité, ça, c'est notre sujet. Vous êtes chez vous, vous êtes dans votre forêt, dans votre bien. Voilà. Depuis quand on devrait vous interdire d'exercer votre passion chez vous et d'ouvrir votre propriété privée, même si elle n'est pas clôturée ou si elle n'est pas entourée de grillage, de l'ouvrir aux gens qui voudraient en jouir et l'utiliser pour leur plaisir. Il y a quand même un petit problème de fond. Ou alors, on est retourné, effectivement, je dirais, sous Léon Trotsky, quoi. Il y a un vrai problème.
Et quand il y a des accidents, alors vous dites le risque zéro n'existe pas, ok, propriété privée, mais encore une fois, quand il y a une balle perdue et qu'il y a un automobiliste qui passe, comme ça s'est passé récemment, qui prend une balle et qui reste, il n'y a pas que la question du droit de propriété et du droit de la liberté à chasser.
Tout à fait d'accord avec vous. Donc c'est pour ça effectivement qu'on a beaucoup travaillé sur ces problématiques de sécurité. On peut toujours annoncer des chiffres importants. Regardez quand même la courbe et la baisse de ces accidents.
Alors c'est vrai.
Qui sont constants et qui sont de plus en plus marqués.
En gros, pour rappeler les chiffres, c'est les chiffres de l'Office de la Biodiversité. Depuis 2000, 150 accidents de chasse par an, 19 morts par an. C'est vrai, ça fait beaucoup.
Oui.
Mais c'est vrai, la tendance est à diminuer ces 4-5 dernières années.
Oui.
Est-ce qu'il y a de nouvelles mesures, Willy Schren, de sécurité à prendre et lesquelles ?
Mais on les a prises dans la loi de,
il y en a pas de nouvelles.
De 2019. Nous avons pris des nouvelles mesures, puisque maintenant on va former les chasseurs tout au long de leur vie sur la sécurité. Et ils reviendront à échéance régulière dans des formations. Évidemment, on a aussi mis en place des systèmes qui nous permettent de retirer un permis, ce qu'on ne peut pas faire avant. Pas quand on a fait un accident, quand on a provoqué un accident, mais quand on a une conduite qui n'est pas adaptée. Maintenant, les fédérations ont ces pouvoirs. On s'est quand même doté depuis 2 ans de plein de choses qui vont de toute façon nous amener à faire encore baisser ces accidents. Après, il faut relativiser. Ce sont des accidents dramatiques. Mais j'ai vu les chiffres il y a quelques jours, des piétons qui sont écrasés sur la route, qui ont été tués. C'est quand même pas loin de 500 personnes. Il y en a quand même plus de la moitié qui ont été écrasés sur des passages piétons. Je ne comprends pas non plus qu'on médiatise autant... Hein, ces accidents qui sont toujours des accidents.
On compare des contextes différents, des choses différentes.
Une voiture mal utilisée, c'est comme une arme de chasse mal utilisée. Ça fait un mort au bout. Donc c'est exactement la même chose. Comme une paire de skis mal utilisée en bas des pistes, ça fait un mort au bout aussi. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Pourquoi on traite le monde de la chasse comme ça ? Parce que, politiquement, il y a des gens qui en ont fait leur emblème de combat. Et c'est pour ça qu'on arrive aujourd'hui à ces extrêmes, à cette violence et à cette haine permanente que nous devons essuyer sur les territoires.
Et politiquement, il y a aussi beaucoup de gens qui vous défendent. Vous êtes tranquille. Vous savez qu'une proposition du type de Yannick Jadot, une année électorale, elle ne passera jamais.
De toute façon, non, mais elle n'est pas censée. Elle est stupide, cette proposition. D'ailleurs,
Que vous dites, ça c'est votre avis à vous.
Je le dis, mais je pense aussi avoir raison en le disant, sincèrement. Dans le fond, autant proposer la fin de la chasse. Comment voulez-vous, les gens qui vont à la chasse le week-end sont quand même des gens qui travaillent. Voilà, je ne parle même pas du droit de propriété. Ils travaillent toute la semaine, ils vont à la chasse le dimanche. Dans ce cas-là, j'entends ce que dit Yannick Jadot. Et je vois comment il construit effectivement sa campagne politique en montant les gens les uns contre les autres.
Oui, ça correspond aussi à une sensibilité de beaucoup, beaucoup de personnes.
Une sensibilité qui est facile à entretenir, jouer sur l'empathie des gens. Sauf que quand il n'y aura plus chasseurs, on va faire comment? Mais rassurez-vous, on est en train de faire une étude qui va bientôt sortir et qui calculera ce que ça coûtera à chaque Français le jour où il n'y aura plus de chasse. Donc le jour où Yannick Jadot aura raison, ça va coûter beaucoup d'argent.
Elle dira quoi? C'est-à-dire le coût le jour où il n'y aura plus de chasse?
Bah parce que si on enlève la chasse, les vacances et le week-end, donc on n'y a plus de chasse. Ouais. On va la faire courte, hein. Ouais. Il n'y a plus de chasse, voilà. Comment on va gérer? Parce que nous, on représente quand même des milliards d'euros. Alors pas en besoin économique, il y a l'économie de la chasse, on la connaît, mais il y a aussi le travail écosystémique des chasseurs. C'est-à-dire, quand on pose sa carabine ou son fusil, faut quand même savoir qu'on apporte 3 milliards d'euros à la biodiversité. C'est pas moi qui le dis, c'est l'État.
Comment?
C'est le BIP.
Comment?
Par toutes nos actions, nettoyage de la nature, entretien des forêts, des haies, des zones humides, on replante des arbres. Faut juste avoir... Alors, de notre faute, quand j'ai dit on n'a pas bien expliqué... Je peux vous assurer qu'on n'a vraiment pas bien expliqué. Parce que quand on met tout ça bout à bout, c'est impressionnant. Ça fait 3 milliards d'euros. Et si on devait, effectivement, demain arrêter la chasse...
Je vous laisse le chiffre, hein, je ne l'ai pas...
Ah mais vous pouvez le regarder, c'est 2,94 milliards, voilà, écosystémiques, donc effectivement d'apport à la biodiversité. Ça, c'est les chiffres de la chasse. Qui peut se prévaloir d'un tel chiffre? Sûrement pas des gens qui ont des grandes idées, même en période d'élection présidentielle.
Samedi, dans l'Ariège, Willy Schrein, un chasseur s'est trouvé face à une ours avec ses petits, oui. Morsure, il l'a tué. Il y a une soixantaine d'ours dans les Pyrénées.
Oui.
Il n'y a pas de cohabitation possible. Est-ce qu'on reste dans cette situation?
Non, moi je pense qu'il y a une possibilité de cohabitation. Bon, là encore une fois, on va se baser sur un accident. Voilà. Il y a des gens un peu agressifs et il y a des fois des ours un peu plus agressifs. Alors le contexte, quand on est une ours femelle et qu'on a deux oursons, on sait que n'importe quel animal va défendre ses petits. Bon, la présence d'un homme qui était là posté, je veux dire, on n'était pas dans l'action de chasse. L'ours n'était pas poursuivi par des chiens. C'était pas ça du tout. Bon, il y a eu ce contact, ce conflit, on va dire, d'usage entre cet ours qui était sur son territoire, ce chasseur qui avait aussi la légitimité d'y être. Et 100 000 fois l'ours va repartir, la 1001e fois l'ours a attaqué.
Donc vous dites aux chasseurs de l'Ariège, oui, une cohabitation est possible, parce que depuis cet accident, on entend des chasseurs dire on veut plus des ours.
Ce qui est sûr,
c'est important si vous leur dites ça.
En ce qui me concerne,
vous leur disiez ça.
Si je dois choisir entre l'ours et l'espèce humaine, je choisirais toujours l'ours. Je choisirais le chasseur, effectivement, ou l'éleveur, ou le berger.
Là, c'est pas la question. Ce que vous dites, il y a une soixantaine d'ours dans les Pyrénées. Oui, c'est possible.
Alors après, il faut discuter de ce nombre. Parce qu'il est en constante augmentation. Il y a déjà eu deux problèmes avant ce problème avec le chasseur, avec un randonneur et un berger.
En août.
Donc, on voit bien qu'à un moment, on n'est pas dans le parc de Yellowstone aux États-Unis. On a mis des loups, des ours, des tas de choses. Là, on est quand même dans un endroit aujourd'hui, quoi qu'on en dise, la France est devenue relativement périurbaine. Même s'il reste des zones montagneuses un peu plus désertiques. Le problème, il est là. Donc à un moment, 60 ours, c'est une chose. Quand ils seront 200, comment on va faire? Faut-il attendre qu'il y ait un gamin qui se fasse bouffer au coin d'un chemin forestier? Parce que ça va arriver. Et plus vite qu'on ne le pense.
Allez, avant d'entendre Mathieu, deux témoignages sur l'appli qui vont vous agacer. David, je suis propriétaire forestier. Les chasseurs n'ont pas compris les limites des propriétés. Je reçois tout le temps des balles perdues. Claude, j'ai un jardin en bordure de route. Les chasseurs tirent dans mon jardin. Les chasseurs ne respectent rien.
Alors, il y a sûrement des gens qui font des erreurs. Et croyez bien que je suis le premier à les condamner. Et quand il y a des problèmes comme ça, faut jamais hésiter à appeler la Fédération des chasseurs. Nous, on est là pour gérer. S'il y a des éléments perturbateurs ou des gens qui se conduisent mal, je ne peux l'accepter, je ne peux le tolérer. Et les sanctions sont rapides. Il faut juste nous le rapporter et nous le dire.
Mathieu, au standard, vous nous appelez du Roussillon. Bonjour Mathieu. De Roussillon,
oui,
de Roussillon dans le Vaucluse.
J'appelle pas du Roussillon,
ouais, voilà.
Du Vaucluse.
Absolument.
Donc, je tenais à vous interpeller. Et surtout, monsieur Willy, je connais pas son nom exactement.
Willy Schrein.
Mais c'est surtout, les sangliers. Bordel de merde. On nous casse les...
Oh non, on va essayer d'être correct à l'antenne, s'il vous plaît, monsieur.
Oui. Donc, on nous embête avec le loup. Le loup, il y en a 400, en France à peu près. Et il y a 500 000 sangliers qui font des dégâts considérables, qui ont été introduits par les chasseurs. Et qui sont plus gérés par les chasseurs parce qu'ils sont trop âgés. Les chasseurs sont trop âgés. Ils sont plus assez nombreux pour arriver à gérer ça.
Ou trop gros pour courir après, peut-être.
Ouais, ou trop gros pour courir après.
Je pensais à moi, hein, mais...
Peu importe.
Quelle est votre question?
Eh bien, en tout cas, ils sont là. Nous, moi, je suis viticulteur. J'ai des dégâts considérables sur mes vignes. Toutes les années, je dois clôturer 24 hectares.
Ça. Et donc, vous dites, est-ce que les chasseurs peuvent faire plus pour les battus de sanglier.
Oui, Schren. Bon, l'important, c'est d'abord de recadrer un tout petit peu ce qu'a dit ce monsieur. J'entends bien, il y a une énorme erreur. Dire que c'est les chasseurs qui ont lâché les sangliers, moi je veux bien, mais enfin là, on est quand même dans les légendes urbaines, il faut tous se calmer. Parce que le problème sanglier, il est mondial. Si c'était que la France qui aurait lâché les sangliers, je veux bien. Comment ça se fait qu'aux États-Unis l'année passée, ça a coûté 1,5 milliard de dollars de dégâts aux États-Unis? Ils chassent pas le sanglier, ça les intéresse pas les chasseurs. Il y en a encore plus qu'ici. Ça c'est la réalité. Donc il y en a pas 500 000, il y en a plutôt 2 millions puisqu'on en tue un petit million. Voilà, on fait tout ce qu'on peut. Le problème aussi, c'est qu'on est confronté aujourd'hui, on le disait, à des zones extrêmement périurbaines. On a beaucoup construit en France en campagne, on a beaucoup effectivement étendu les zones pavillonnaires en périphérie des villes. Il y a aujourd'hui à peu près un quart du territoire national qu'on ne peut pas chasser. Et pratiquement un tiers qu'on ne peut pas ou presque plus chasser. C'est un vrai problème. Les sangliers sont des opportunistes incroyables. Il n'y a plus d'hiver. Ils ont 10 jeunes par printemps. Et ils se débrouillent très bien entre les maisons pour se cacher dans un petit roncier. C'est un vrai problème.
Merci Willy Schren d'être venu dans les studios de France Inter. 13h45.
France Inter. Le 13-14.
À suivre le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno Dubic.
Nouvelle chronique sur les femmes du Panthéon.
Marie Curie.
C'est tout de suite, c'est dans 10 minutes. Avant cela, il y aura le feuilleton Une semaine dans la vie de nos deux bouchers en reconversion. Feuilleton signé Sarah Guibaudot. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
À votre micro aujourd'hui, une célèbre styliste Agnès Troublé, dite Agnès B.
Styliste et collectionneuse d'art contemporain. En ce moment, deux expositions présentent une partie de sa collection de graffiti à Paris. Agnès B. aime également habiller les chanteurs de Rhône à Placebo en passant par Mathieu Chédid et elle fut longtemps la styliste de David Bowie. Mais c'est d'une chanson de Léo Ferré qu'elle a choisi de me parler, L'Affiche Rouge, composée sur un poème d'Aragon, strophe pour se souvenir, poème inspiré par la lettre écrite par le résistant Michel Manouchian à sa femme Mélinée, avant d'être fusillé au Mont-Valérien en février 1944.
C'est mon père qui aimait beaucoup la musique, on a été élevés avec la musique, mes frères et sœurs et moi, et un jour il a mis sans doute un micro-sillon, ça devait être en 59, hein, et j'ai entendu cette chanson qui m'a bouleversée. Si j'écoute cette chanson, ça me donne envie de pleurer. Parce que c'est émouvant, c'est poétique, c'est Aragon et Léo Ferré. Mais la musique, ça peut attendrir, hein. Heureusement, beaucoup.
Et c'est un homme qui va mourir.
Oui. C'est un homme qui va mourir et qui écrit à sa femme. Et c'est tellement beau, adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent. Toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Ça, c'est la fin de la chanson et c'est magnifique cette chanson.
Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans.
Et c'est aux 23 membres du groupe Manouchian que ce texte rend hommage, Frédéric.
22 hommes et une femme, les premiers fusillés, l'autre décapité, et l'affiche rouge, c'était une affiche de propagande allemande où figuraient les photos de 10 d'entre eux présentés comme des criminels, alors qu'ils étaient des héros. Veut se souvenir Agnès B.
J'ai choisi cette chanson parce qu'on est intoxiqué en ce moment, aussi bien à la radio qu'à la télévision, par des idées qui sont contraires à ce qu'est la France pour moi. Ce que devrait être la France en tout cas. Ça peut faire beaucoup de mal, voilà ce que je pense. Alors que la France a été un pays d'accueil, on a accueilli les Italiens et les Espagnols après la guerre. Et puis il ne faut pas oublier que ceux qui sont d'origine du Maghreb sont des gens qui ont fait Renault, qui étaient dans les usines, qui ont fait nos guerres. Mon oncle était à Dien Bien Phu, le frère de ma mère, militaire, avec ses goumiers marocains. Ils faisaient nos guerres, les Marocains. On n'en parle pas de tout ça. On dirait que c'est quelque chose comme si on avait effacé le tableau. C'est pas possible.
Cette chanson, pour vous, c'est comme une piqûre de rappel sur ce qu'a été notre pays et qui l'a défendu ?
Mais oui, bien sûr. Il y a eu des gens qui ont résisté à toutes ces idées qu'on voulait nous imposer. J'aime bien comme on parle de Vichy maintenant, c'est scandaleux. D'ailleurs, Vichy était complice, en effet, de l'arrestation du groupe Manouchian. C'était un groupe de résistants, étrangers, morts pour la France.
Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ».
Est-ce que vous pensez qu'une chanson, ça peut changer les choses d'une manière ou d'une autre ?
Que la poésie peut changer la vision des gens, j'espère. Dieu sait s'il y a à dire sur les migrants, la façon dont on les traite, en pensant qu'en les traitant mal, il y en aura moins qui arriveront, qui est une idée aberrante. Moi, quelquefois, j'ai honte de comment on se comporte en France.
C'est aussi pour ça que vous avez choisi cette chanson.
Oui, c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson. Je pense qu'elle est d'actualité. C'est le moment de la réécouter. C'est très important en ce moment, je trouve, de savoir un peu ce qu'il y a eu avant.
Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers, nos frères pourtant. 23 amoureux de vivre à en mourir. 23 qui criaient la France en s'abattant.
L'affiche rouge, Léo Ferré. C'était donc Frédéric, le choix de la styliste Agnès B.
Dont vous pouvez aller voir en ce moment une partie de la collection de graffiti à la FAB et à la Galerie du Jour. C'est dans le 13e arrondissement de Paris. Et puis, vous pouvez la voir également dans un livre, cette collection, 40 ans de graffiti avec Agnès B. C'est publié chez Textuel.
À demain.
À demain.
Une semaine dans la vie de deux bouchers, c'est notre feuilleton cette semaine. On les appelle néo-artisans, issus de reconversion professionnelle. Ils s'appellent Roland de Linares, Benjamin Tixier, boucher à Paris. La boutique s'appelle Les Bouchers Doubles. Ils nous parlent de leur métier et aujourd'hui, cette expérience de la reconversion, alors que tous les deux avaient un métier de bureau consultant. Feuilleton signé Sarah Guibaudot.
Là, vous faites quoi ?
Là, j'ai aussi un os qui me gêne pour manipuler la cuisse. C'était le rhum steak qui était là, donc on a déjà levé. Donc je scie juste place du rhum steak pour me permettre d'avoir accès directement.
Comment est-ce que vos anciens collègues ou vos proches, votre entourage réagit quand vous dites « je quitte un travail de cadre dans une grande entreprise pour devenir boucher ».
Ça a été très bien reçu. Tout le monde m'a même donné le métier qu'il aurait bien aimé faire. Des ébénistes, des fromagers, des cavistes, des menuisiers. Donc ça, chacun y allait de son métier. Et après, pour nos familles, les gens ont été assez vite rassurés. Ils ont vu qu'on ne cherchait pas absolument à fuir quelque chose dans lequel on n'était pas heureux. C'était pas une fuite, c'était pas complètement loufoque. Je pense que ça les a vite rassurés et maintenant ils sont ravis. Donc voilà, donc là je lève un steak qu'on appelle l'araignée. Vous voyez, maintenant là on connaît exactement les jointures entre les os, on a des repères qui nous permettent d'aller de respecter au mieux l'anatomie de l'animal. Mais effectivement au début c'est un peu difficile quand on n'a pas fait médecine. Donc ça, c'est vraiment la base du métier. C'est ce qu'il y a à l'examen. Et voilà. Mais en fait, plus on avance, et plus c'est une petite partie du métier, en fait, en termes de temps passé.
C'est impressionnant au début, à l'école, quand on fait ça pour la première fois ?
Oui, non, mais c'est impressionnant déjà d'avoir ça. Surtout que dès le premier jour, on nous dit, voilà, il va falloir faire ça. On nous montre et puis on nous remontre et puis on nous redit, c'est comme ça.
Ça s'apprend pas dans les livres.
Non, exactement, il faut le faire. Au début, on est 6 semaines à l'école et ensuite on est 6 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Donc c'est beaucoup en boutique. Donc il faut apprendre à passer le balai, on se retrouve à 4 pattes à nettoyer le frigo, on fait des brochettes pendant 4 mois. Voilà, il faut tout réapprendre.
C'est un métier qui recrute ?
C'est un métier qui recrute énormément. Alors je sais plus quels sont les chiffres, mais il manque des bouchers. C'est un métier qui recrute et dans lequel on peut bien gagner sa vie. Donc c'est un très beau métier.
Est-ce que je peux poser du coup une question à Nathan, salarié ? Comment vous êtes arrivé dans la boucherie, vous ? Est-ce que vous avez des parents bouchers ?
Moi c'était vraiment, j'étais un peu sur un parcours, il fallait que je trouver une voie professionnelle parce que l'école c'était clairement pas fait pour moi et au final j'ai cherché des métiers qui me plaisaient, je me suis essayé un peu partout, en cuisine, en plomberie et c'est quand je suis arrivé au salon d'agriculture je suis arrivé devant le stand de la boucherie, on m'a proposé d'essayer et au final c'est un métier qui m'a plutôt plu parce qu'on nous disait qu'il voilà, il y avait de l'emploi, ça payait bien, on était au contact du client, on fait un métier qui tourne autour de la bouffe qui est assez intéressant et puis voilà quoi, genre on est dans le concret, il y a des gens qui se plaignent de faire des métiers qui ne servent à rien et qui ne savent pas à quoi servent leur métier. Moi, je sais à quoi sert le mien, c'est les gens mangent, les gens se font plaisir à table et c'est grâce à moi.
Et vous avez quel âge ?
J'ai 30 ans. Et j'ai commencé la boucherie il y a 15 ans. Moi, j'ai commencé vraiment très tôt, 15 ans. Je voulais rentrer vite dans la vie active et me faire ma place. C'était le plus important, c'était la peur de ne pas réussir et de ne pas trouver ma place un peu dans la société. Donc je me suis dit, fallait se mettre au travail et c'était important.
Et là, qu'est-ce que vous faites ?
Alors moi, je suis en train de préparer des côtes filets d'agneau. Et c'est vraiment bon. Quand je vois ça, ça me donne envie. J'ai envie de le manger.
Et demain, nous verrons comment ils appréhendent les polémiques actuelles sur la viande. Après les polémiques sur la chasse, tout à l'heure, feuilleton réalisé par Lucie Lemarchand.
France Inter, le 13-14.
Avant l'entrée au Panthéon de Joséphine Baker, mardi prochain, série Jean Lebrun dans le vif de l'histoire sur les femmes du Panthéon. Alors la femme de Marcelin Berthelot avait trouvé une place au Panthéon parce qu'elle accompagnait son époux. Mais la première à y pénétrer pour ses mérites propres, ce fut Marie Curie avec Pierre, bien sûr.
Par la grâce de François Mitterrand qui a présidé à cette occasion une de ses dernières cérémonies en 1995 à l'extrême fin de son mandat. Marie Curie, l'inventrice de la radioactivité, était venue de Pologne à 24 ans, deux fois nobélisée, 1903-1911. C'est une personnalité d'importance au début de la Première Guerre. Quand le gouvernement, l'été 14, prépare le repli à Bordeaux, il lui propose de prendre en charge son étalon du radium, qui valait gros. Elle préfère l'emporter elle-même dans un train et le déposer à Bordeaux, en effet, mais dans un lieu sûr de son propre choix. Elle n'aimait guère l'autorité, mais elle aimait la France et elle s'improvise cette année-là créatrice d'un corps de radiologie aux armées qu'elle organise à sa façon. La doctrine de l'état-major, au départ, c'était d'évacuer les blessés le plus loin possible à l'arrière. On empaquette, on étiquette, on expédie. Non, soutenait Marie Curie, l'utilisation au plus près du front des rayons X permet de localiser de suite les blessures et de les traiter vite. Ses titres, son autre genre, lui permettent de contourner les interdits du service de santé aux armées, longtemps réticents. Et elle va équiper en 4 ans quelques 20 véhicules automobiles radiologiques, 200 stations radiologiques, et formera plus de 100 manipulatrices. Plus d'un million de personnes blessées vont passer par une structure qu'au départ, elle avait soutenue de sa propre énergie. Pour figurer l'attachement à la nation française, les étrangers sont souvent les mieux placés, d'autant qu'ils n'en font pas un commerce politique.
Mais il a été reproché à Marie Curie d'être une étrangère.
À cet égard, 1910-1911 furent pour elle des années terribles. Alors 1906 avait déjà été très difficile. Pierre, son mari, meurt accidentellement. Et ses collègues de la Sorbonne, ayant l'élégance de l'élire pour le remplacer, elle prononce sa leçon inaugurale en reprenant le cours de Pierre au mot précis où celui-ci l'avait laissé. Personne, alors, ne parle d'elle comme d'une étrangère. Elle est pour tous la grande dame en noir. En 1910-1911, l'atmosphère va changer. Marie Curie s'est laissée convaincre de se présenter à l'Académie des sciences. Mais si ses travaux lui ont créé des admirateurs, son sexe va lui faire beaucoup d'adversaires. D'autant qu'un grand savant est aussi sur la ligne de départ. Il s'appelle Édouard Branly et il présente des qualités qu'elle n'a pas, notamment auprès des anti-Dreyfusards qui sont toujours nombreux. Français depuis X générations, professeur à l'Institut catholique, il l'emportera d'une voix. Le précurseur de la radio a battu la dame du radium. La dame du radium, la veuve radieuse, non, plutôt. Une campagne de presse est en effet lancée contre Marie Curie. La belle-mère du grand physicien Paul Langevin ouvre les hostilités. « Mon gendre, explique-t-elle à l'hebdomadaire xénophobe L'Œuvre, a été capturé par Marie Curie. Elle est devenue sa maîtresse et elle le pousse à abandonner sa femme et ses 4 enfants. » La grande presse embraye. Langevin est traité de « Chopin de la Polonaise ». Marie Curie, de maîtresse de Langevin, devient ogresse. ogresse juive parfois. Et sa maison, un jour, est assaillie par des manifestants dehors l'étrangère.
Et c'est à ce moment-là qu'intervient le deuxième prix Nobel.
Opportunément, en effet, annoncé par un télégramme le 7 novembre 1911. Néanmoins, le membre de l'Académie Nobel qui a porté son nom lui recommande, le climat étant ce qu'il est, de s'abstenir de venir recevoir le prix. Elle décide cependant de faire le déplacement à Stockholm. Et à son retour en France, elle est longuement hospitalisée, elle ne revient pas dans sa maison, s'installant quai de Béthune. Toute l'année 1912, elle se dissimule. Elle ne revient au premier plan qu'avec la guerre pour aider son pays qui ne lui a pas toujours été aimable.
Et la panthéonisation aurait des couleurs de réparation plus tard.
Vous direz à propos de Joséphine Baker, elle voulait s'appeler Baker, qu'en Algérie en 1943, après le débarquement des Alliés, il y avait des Français qui avaient adoré Pétain, qui détestaient la voir sur scène quand elle chantait devant les soldats alliés. Pourtant, elle se mettait à genoux pour interpréter « J'ai deux amours, mon pays et Paris », pendant qu'un immense drapeau tricolore tombait des cintres. Eh ben, il arrivait qu'on entende « C'est une étrangère ».
Voilà, parallèle entre Marie Curie et Joséphine Baker. Vous y tenez, vous nous avez expliqué pourquoi et la panthéonisation. C'est mardi prochain. Merci Jean. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
La Terre au carré, le programme s'il vous plaît.
Et bien, nous recevons Anne-Larry Gaudry, qui est la secrétaire exécutive de l'IBES pour parler biodiversité.
Biodiversité, à tout de suite.